7:04.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir, Michael Thébault.
Bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, direction la Bolivie, qui tente difficilement de lutter contre la déforestation massive.
Ah oui, et les chiffres sont impressionnants. En 10 ans, entre 2000 et 2010, 1 800 000 hectares de forêt ont été rayés de la carte. Et le phénomène s'est encore accéléré ces 5 dernières années. En moyenne, la Bolivie perd chaque année près de 200 000 hectares de forêt, soit 280 000 terrains de football, ou si vous préférez, l'équivalent de 27 fois Paris chaque année. Bonjour Alice Campagnol, correspondante de France Inter à La Paz.
Bonjour Michael.
Alors pour se faire une idée précise et de l'enjeu et du débat en cours dans le pays, extrait d'abord de ce discours du président bolivien, c'était le 1er décembre 2015, écoutez.
Nous participons à ce sommet pour exprimer notre profonde préoccupation pour les phénomènes dramatiques qui ont lieu et qui menacent de tuer toute forme de vie, et surtout de tuer la Terre-Mère. La Terre-Mère se rapproche dangereusement du crépuscule de son cycle vital. La cause et la responsabilité de ce déclin sont dues au système capitaliste.
Ce que vous avez entendu, c'est le discours d'Evo Morales à la tribune à Paris lors de la COP21. Le président bolivien montre du doigt les pays dits capitalistes et il ne mâche pas ses mots, on peut le dire. Leur développement a pollué l'ensemble de la planète. Mais la nature et le climat bolivien doivent aussi affronter des menaces intérieures. Le mois dernier, un rapport de l'ONU a placé la Bolivie en 7e position, 7e sur les 10 pays avec le plus de pertes de zones forestières dans le monde.
Alors justement, Alice, quels sont les principaux responsables de cette déforestation ?
Alors, plusieurs causes, Michael, l'élevage, l'extraction minière, l'agriculture, entre autres, le soja, par exemple, c'est l'un des principaux responsables de la coupe des arbres. Mais il y a également une culture propre à la Bolivie et très lucrative.
Mon grand-père cultivait de la coca, mon père, mon arrière-grand-père, moi aussi maintenant je cultive et mes enfants après moi. Pour nous, la coca est un produit sacré. Nous pouvons donner notre vie pour la coca. Imaginez si nous ne pouvions plus cultiver. De quoi pourrait-on vivre ?
Avec une parcelle d'à peine 50 mètres carrés qui peut rapporter jusqu'à 100 euros par mois, difficile pour Carlos de s'imaginer arrêter la culture de coca et de laisser pousser les arbres. Alcides Poiki est un agriculteur également et il tient à défendre ses pratiques.
La mentalité ici, ce n'est pas de raser les forêts, mais de produire. Couper un arbre pour produire. Raser, couper et abattre les arbres, c'est la seule façon de préparer un terrain.
Bon, et comment les autorités réagissent-elles ? Que font-elles pour arrêter le massacre ?
Eh bien, il est difficile pour les autorités de freiner la déforestation, malgré l'inscription, par exemple, dans la Constitution de la protection des zones forestières et malgré des initiatives diverses, comme ce spot de pub, par exemple.
Dale un regalo a la madre tierra. Plante un árbol en tu comunidad. En el parque de tu barrio.
Mais surtout difficile d'arrêter de couper des arbres quand l'industrie du bois est l'une des plus lucratives du pays. L'exportation de produits forestiers représente 3% du PIB, c'est un des secteurs économiques d'exportation les plus actifs du pays. Juste après, eh bien, le soja, qui est lui aussi assez dévastateur pour la forêt. David Guever-Jurado, c'est le directeur départemental de ABT, c'est l'autorité de gestion des forêts et des terres, et pour lui, il est évidemment essentiel de protéger les zones forestières, mais il voit mal comment la Bolivie pourrait se développer sans utiliser les arbres.
Le développement de notre pays est l'un des plus importants de tout le continent. Donc, logiquement, cela implique une grande quantité d'activités, l'agriculture, l'industrie, l'élevage. Dites-moi, les pays les plus développés, est-ce qu'ils ont pu réaliser une croissance verte, un développement, disons, durable, sans faire tomber un arbre ?
Donc aujourd'hui, la Bolivie fait face à un défi, se développer tout en respectant l'environnement, nourrir ses habitants et se faire une place sur les marchés internationaux tout en gardant toujours autant de forêts. Les autorités mettent en place des initiatives de reforestation, à voir désormais si l'effort est suffisant pour contrer le phénomène.
Ouais, on comprend que c'est loin d'être gagné. Alice Campagnol en direct de La Paz en Bolivie. Merci beaucoup.
On file maintenant, Mickaël, pour une destination, vers une destination de carte postale, les îles de Los, en Guinée-Conakry.
Ah oui, authentique image d'Épinal que ce petit archipel, à 40 minutes seulement du centre de Conakry. Un archipel qui a longtemps séduit les aventuriers de tout poil. On raconte que ces îlots de plages sauvages, de cocotiers, de végétation luxuriante ont même inspiré le roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Bonsoir François-Xavier Frelan.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors Vénard, vous étiez sur place il y a quelques jours encore pour une balade qui commence ici même, hein, sur ce petit embarcadère, à côté du grand port autonome de Conakry, et on part en pirogue.
Oui Mickaël, et quand on part pour l'archipel de Los, bercé hein, par ce diesel du moteur crachotant, on a déjà l'impression de partir pour le bout du monde. Il y a d'abord ces immenses cargos parqués juste à la sortie du port, à la queue-leu-leu, qui attendent de pouvoir rentrer. Et puis il y a surtout ces vieilles carcasses de navires, comme des baleines de métal rouillées. Et Conakry d'ailleurs fut longtemps un cimetière marin. Vous le voyez, on entre dans un décor de légende.
Alors légende, et ce serait donc, qui plus est, l'une de ces îles, source d'inspiration de l'œuvre majeure de Robert Louis Stevenson.
Oui, c'est ce qu'on raconte. En tous les cas, il cite l'île de Room dans son roman, qui était alors sous influence britannique à la fin du 19e siècle. Je vous propose de revenir sur cette époque à travers la voix du plus grand intellectuel guinéen, l'historien et écrivain Djibril Tamsir Niane, véritable mémoire vivante de l'histoire africaine, proche ami du burkinabé Kizerbo ou encore du malien Ampateba. Alors tendez bien l'oreille, ce monsieur est âgé.
Stevenson a développé sa théorie à partir des îles de Los. Mais ça, c'est davantage le côté romanesque des îles que la réalité historique.
Il serait passé par les îles ?
Oui, possible, oui. Il est passé par là. Il a situé les événements dans l'île de Room. Mais il faut savoir que ces îles ont connu une activité intense au 18e siècle et au 19e siècle. Quelques années avant que les Anglais prennent la décision de supprimer la traite négrière, les îles de Los ont connu une très grande activité. Les flibustiers ont fréquenté ces côtes-là et on a beaucoup de récits d'historiens, de géographes, de voyageurs de l'époque sur les actions des pirates.
Ouais, on le comprend bien, hein. C'était donc un haut lieu de commerce, de piraterie, de traite négrière. Un décor parfait évidemment pour un roman d'aventure. Et le trésor dans tout cela, François-Xavier ?
Bah on l'entend, hein. Je vais vous décevoir Mickaël, j'avais le plan et je n'ai rien trouvé, mais de toute façon le trésor est ailleurs. Il faut s'imaginer donc ces îles où se pressent quelques touristes le week-end, ce petit paradis caché. Alors des plages de sable fin, vous l'avez dit, des cocotiers, des eaux poissonneuses. Ces îles furent habitées par les Portugais, par les Anglais, puis par les Français, c'est dire l'intérêt qu'elles suscitaient. Les habitants sont d'ailleurs métissés, il reste aussi des traces de cette colonisation. On écoute mon guide, le villageois Ibrahim Somi Soma.
On dit ça parce que c'est une île qui est vraiment super, qui est beau. On a tout ici parce que, en fait, on dit les trésors parce que c'est une île qu'on peut voir tout, on peut cultiver, on peut faire un peu de tout dans cette île. Les bananes, il y a des palmes, il y a des avocatiers, on a encore des élevages aussi, il y a des moutons et le buffle aussi, il y en a.
Donc c'est un peu une île où on peut vivre bien.
Oui, on peut vivre bien.
Ouais, une île paradisiaque hein, pour certains, mais qui fut aussi, faut le rappeler, hein, un bagne cauchemardesque pour d'autres.
Et oui, tout à fait. Sur l'île Fotouba, qui signifie l'île des Blancs. D'ailleurs, on entend ces corbeaux derrière. On retrouve les traces d'un vieux pénitencier, juste à côté d'une église anglicane, qui date de 1870. Elle est en parfait état. Et dans le village voisin, il y a encore les vieilles maisons de maîtres de style colonial. Écoutez les précisions des habitants. On entend d'abord la voix de Camara Bassamba et du guide, donc Ibrahim.
Qu'il prenait les intellectuels guinéens, les enfermer ici.
Il y a eu des hommes célèbres qui sont passés par la prison ici ?
Oui. Il y a Valois, il y a Cheikh Ahmed Kaba et Saifullah Diallo et Alpha Yaya Diallo.
Qui était Alpha Yaya Diallo?
Alpha Yaya Diallo, il était charge, il était un homme combattant en temps colonial. C'était un chef guerrier en Afrique de l'Ouest.
Il a résisté, aux colons?
Oui, il a résisté aux colons. Puis bon, on a enfermé ça en 1911.
Vous l'avez compris, on y enfermait les premiers indépendantistes. C'était pas réjouissant pour tout le monde, Michael. Et tenez-vous bien, les îles de Los ou de Luz viennent de l'anglais lose. C'était les îles de la perdition. D'ailleurs, dans le roman de Stevenson, on lit ceci. « Un homme à la mer, dit le capitaine. Ma foi, messieurs, cela nous évitera de le mettre au fer. »
Voilà, les îles de Los ou de Luz, comme vous préférez,
les îles de la Luz.
Guinée-Conakry. Reportage signé François-Xavier Frolland. Et pour finir, Nicolas, un record qui, comme tous les records, peut sembler futile, voire totalement inutile, sauf que celui-ci est éminemment politique. C'était fin janvier à Ahmedabad, dans l'état du Gujarat, nord-ouest de l'Inde. 509 261 personnes réunies pour ça.
5, 4, 3, 2, 1.
Plus d'un demi-million d'Indiens réunis donc pour chanter d'une seule voix le Jana Gana Mana, autrement dit l'hymne national indien, devant près d'un million de spectateurs physiquement présents dans l'arène. Record mondial homologué il y a quelques jours par le Guinness Book et qui pulvérise le précédent record établi en 2014 par le Bangladesh, 254 000 personnes seulement. Et du chanteur anonyme aux médias nationaux, en passant par les ministres, le chef de l'État lui-même, tous ont dit bien sûr leur fierté d'avoir accompli un tel record. Il faut dire que cette performance, Nicolas, intervient sur fond d'exacerbation du patriotisme indien. Le pays, vous le savez, est dirigé depuis 2014 par le gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi. En novembre dernier, la Cour suprême indienne a ainsi rendu obligatoire la diffusion de cet hymne national dans tous les cinémas au début de chaque film, obligeant même l'assistance à se lever. Et depuis, eh bien, on ne compte plus les spectateurs agressés et parfois interpellés pour ne pas avoir suivi la consigne.
À lundi, Michael.